Les soins de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Ah, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro
el cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps. Voici la partie 2 de la table ronde du CLAP 33 sur comment l'État nous violente. La question que je posais à mes invités alors, c'était comment s'approprier le stigmate pour le retourner et en faire une force.
Des pistes par rapport à ça. Est-ce que Marion, tu veux reprendre le tour de parole?
Bah moi, dans mes notes que j'avais préparées du coup pour aujourd'hui, j'ai écrit que l'État en vient à nous faire douter de nous-mêmes. Et je trouve que c'est quelque part l'une des violences qui est aussi parmi les plus difficiles à déconstruire en soi-même, en fait. Parce que finalement, on lutte, on se bat contre un extérieur, contre un élément, contre le validisme, la grossophobie des autres. Mais en fait, le discours qu'on tient sur nous-mêmes, il est tout autant important, en fait, parce que fréquemment, j'en arrive à me demander si je suis assez handicapée, si je devrais pas faire un effort. Parce que c'est tellement le discours qu'il y a autour de ces sujets-là, qu'en fait, malgré toute la déconstruction qu'on peut avoir, malgré tous les livres qu'on peut lire, malgré tous les posts que j'écris, finalement, en fait, il y a un enjeu où il faut déconstruire nos propres croyances. Par exemple, autour de la productivité, moi je sais que d'un point de vue de la violence d'État, je la lis beaucoup à la violence capitaliste, en fait, qui vient nous dire que si t'es pas productif, tu mérites pas tant ta place dans la société. Parfois, j'ai l'impression que mon rapport à la citoyenneté, il est différent aussi, parce que j'ai pas une vie active classique. J'ai une vie active faite un peu de bric et de broc comme je peux, selon les contraintes de mon corps. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de prendre la parole et de lutter, en fait, parce que comme ça, on montre aussi aux gens l'intériorité de toutes ces discriminations-là et ce qu'elles viennent nous faire. Moi, je sais que mon dossier pour l'AAH, j'ai mis 4 ans à le remplir. Donc, on rappelle que l'AAH, le dossier fait plus de 30 pages. Sans les certificats médicaux, sans toutes les pièces justificatives qu'il faut fournir, il est à renouveler tous les 2 ans. Donc ça veut dire que comme il y a le délai de 10 à 12 mois, en fait, une fois qu'il est obtenu, il faut quasiment s'y remettre un an après pour être sûr de pas avoir de discontinuité ou donc on va être dans une grande précarité. D'autant que là, on se bat pour que ce soit déconjugalisé, mais sinon, c'est lié au revenu du conjoint, de la conjointe aussi. Et on rappelle que c'est 971 euros l'AAH à taux plein.
À taux plein, oui.
À taux plein, donc à partir de 80% de handicap évalué par des gens extérieurs à toi.
Qui n'ont pas de handicap,
c'est qui n'ont pas de handicap, oui, bien sûr, parce qu'il faut être valide pour faire partie du comité, je pense.
Exactement.
C'est le seul moyen, sachant que le seuil de pauvreté est de 1158 euros. Donc on est quand même quasiment 200 euros sous le seuil de pauvreté. Et il faut en fait constamment se justifier parce qu'il y a un climat de suspicion de faux handicapés qui pourraient finalement avoir envie de remplir un dossier de 30 pages pour avoir 971 euros par mois. Et ça, enfin, en fait, ça fait partie des choses qui ne vont pas. Le fait de d'avoir des démarches tellement difficiles qu'elles sont hautement dissuasives, parce qu'on parle quand même de personnes handicapées qui n'ont donc pas autant accès à des aides pour remplir le dossier et qui doivent se justifier, subir des violences médicales aussi, parce que comme moi on voit pas grand chose sur les examens, ça veut dire que possiblement il y a rien. Mais pourtant, moi, ce que j'expérimente dans mon corps, dans la vie de tous les jours, c'est que oui, il y a quelque chose. Là, je vous parle, le bas de mon dos, j'ai l'impression d'avoir un poignard planté dedans. L'arrière de mes bras, c'est pareil. Les cervicales, c'est pareil. Donc oui, factuellement, il y a un problème. Et pourtant, la médecine me dit que peut-être comme on voit rien à l'IRM, c'est qu'il n'y a rien. Et en fait, je pense que dans les pistes de solutions pour renverser le stigmate, il y a aussi le fait de déconstruire le rapport très vertical à la médecine, où le médecin est le sachant et la patientèle, c'est... il faut être le bon patient, la bonne patiente. Il faut accepter ce qu'on te dit, il faut être gentil, il faut être agréable. Il faut venir à l'heure à ton rendez-vous alors que le médecin te fait parfois attendre 1 à 2 heures. Pour finalement te dire « Ah, je sais pas ce que vous avez. Ça dépasse mes compétences. Super. »
T'attends un an et le rendez-vous dure 5 minutes.
Ouais.
C'est très agréable.
Oui. Et en fait, le problème, c'est que d'un point de vue de la violence d'État, l'État n'aime pas que tu saches mieux que les médecins ce que tu as. C'est pas possible, ça. Parce que moi, j'ai vu une algologue à plusieurs reprises, c'est la docteure de la douleur. Pas la docteure des algues, désolée. qui m'a dit, en fait, au bout du 3e rendez-vous, je ne sais pas quoi vous dire. Parce qu'elle m'a prescrit des séances de balnéothérapie. Donc, j'allais à la piscine toutes les semaines, ça, c'était super. J'ai des séances de kinésithérapie depuis mes 16 ans. J'ai dû attendre 8 ans mon diagnostic d'endométriose, 10 ans pour qu'on me dise que peut-être j'avais une fibromyalgie, mais en même temps, c'est pas très sûr. Et là, en fait, quand je me lève, je fais des malaises. Donc j'utilise un fauteuil roulant, qui ne m'a pas été prescrit parce que ça rentre pas dans les conditions qui font que tu peux avoir le droit d'attendre 1 an pour que ton fauteuil soit remboursé. Donc il faut voir des ergothérapeutes et toutes sortes de médecins, et comme moi je leur disais, mais en fait, si je me lève, je tombe. Non, tu peux pas. Donc, je suis assise sur un bolide à 1 200 €, payé entièrement par mon argent et celui de ma famille. Parce que, en fait, l'État, si tu rentres pas dans les petites cases qui sont écrites sur les petits formulaires, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi te dire. Alors, en plus, moi, j'ai 2 partenaires qui sont non-binaires. On les met où dans les cases ? Qu'est-ce qu'on fait pour le tableau, du coup ? Parce que l'aspect situation familiale dans le dossier de l'AAH, je sais pas. Je sais pas comment je peux ne pas leur mentir. Je veux pas leur mentir, mais il n'y a pas la case. Et en fait, ils ont ce qu'ils appellent les hors-listes. Donc super, c'est bien, c'est pas violent de dire que tu es hors-liste. Ou peut-être éventuellement, selon leur budget, leur volonté, et ce qu'ils ont mangé à midi, possiblement, le comité va te dire si tu as droit... pour ces 2 prochaines années, à vivre sous le seuil de pauvreté. Bon. C'est un peu violent à recevoir, en fait. Et donc, en fait, pour moi, la manière de renverser le stigmate, ce serait vraiment, oui, donc, du coup, de s'informer et d'accepter la pluralité des situations des gens, en fait. Parce que, tout comme l'IMC, c'est n'importe quoi... leur case à la MDPH, ben c'est n'importe quoi, parce que moi j'ai dû mettre l'autisme en priorité sur les circonstances qui font que je ne peux pas travailler. C'est pas le problème, l'autisme, c'est que j'ai mal tout le temps, j'ai mal partout, et si je suis debout d'ici au bout de la scène, je m'effondre et je fais un malaise parce que mon cœur il monte à 180. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et encore, je ne suis pas grosse. Je les ai pas toutes, les discriminations, quand même. Mais on se retrouve dans des situations, en fait, où c'est absurde. Et c'est à nous de forcer pour rentrer dans des cases et à forcer ta situation dans un formulaire qui est le même pour tout le monde, où tu dois zapper toi-même les parties qui sont dédiées aux enfants, les parties qui sont dédiées à ta scolarité et les adaptations que tu voudrais pour l'école. Et en fait, bah, le dossier, il devrait être un minimum personnalisé, quoi. Parce que oui, tu peux aller voir une assistante sociale pour t'expliquer ce qu'il va falloir mettre dans les cases, mais le problème, c'est les cases. Et puis on se retrouve à faire des lettres de motivation aussi, à définir notre projet professionnel sur le long terme.
Toujours dans la productivité.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que tu peux pas... Ton objectif de vie, ça peut pas être avoir la location. Il faut que tu aies pour objectif de sortir de la location.
Comme tu peux avoir pour objectif de sortir de la rue, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et puis sortir du handicap aussi, tant qu'à faire.
Tant qu'à faire.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, en fait, on essaye encore et toujours de me guérir. Sauf que il se retrouve face à un élément factuel très brut. Ils ne savent pas comment faire. Donc je dois sortir moi-même d'une maladie en étant une patiente exemplaire, alors qu'ils n'ont pas la réponse à mes questions. Et en fait, le serpent, c'est même pas qu'il se mord la queue à ce stade, en fait, il mord toutes les parties de son petit corps. Et on se retrouve face à des violences absurdes. Parce que la violence, elle vient des milieux médicaux, elle vient des médecins eux-mêmes qui n'ont pas les billes pour t'aider, en fait. Parce que parfois, il y en a qui sont de bonne volonté, il n'y a pas de souci. Et les autres fois, j'y vais avec mes partenaires. Donc au pire, si ça se passe mal, c'est pas moi qui engueule. Moi, j'arrive pas à engueuler les gens. Mais en fait, oui, le problème, c'est de se dire que non, on n'est pas nul parce qu'on n'est pas productif. On n'est pas une moins bonne personne. Et de se questionner, en fait, sur notre propre valeur. J'ai vu... Enfin, c'était en anglais, mais qui disait que « You are not a human doing, you are a human being ». Donc, tu es un être humain qui est, pas un être humain qui fait. Et en fait, bah pour moi, tout l'enjeu, il est là, quoi. On n'a pas été posé sur ce caillou pour juste travailler jusqu'à s'épuiser, quoi. C'est pas ma perception de la vie, en tout cas. J'ai pas envie que ça le soit. Et pourtant, je m'en veux. Donc, en fait, pour moi, l'enjeu central, il est dans ce que ça te fait à toi-même, en fait. Et je pense que ça doit être un peu pareil pour les personnes sans-abri, le fait de pas travailler. Socialement, c'est dur, quoi.
On en a une bonne partie, n'importe quoi. On en a une partie qui travaille, hein, en étant sans-abri. On en a une partie qui est à l'école en étant sans-abri aussi. On a quand même un pourcentage de travailleurs et d'étudiants à la rue, malheureusement.
Parce que c'est trop cher de se loger.
Alors c'est trop cher, oui, parce qu'il manque parfois des papiers, c'est des listes interminables. Enfin là, on en a qui sont en attente de logement social depuis 2 ans et demi, par exemple, avec ou sans chien, et qui travaillent. On a des familles entières à la rue, donc. Qui veut dire des enfants scolarisés à la rue. On en a, oui.
Donc le stigmate, en fait, il prend tellement de formes différentes que donner une manière de le renverser, bon, si je l'avais trouvé, je sais pas si je serais là. Peut-être si. Mais en fait... Du coup, la discrimination, on se la subit tellement de plein fouet, etc., qu'il y a aussi une grosse part de lassitude et de finalement essayer de faire ce qu'on peut à notre échelle pour aider les autres et essayer de s'aider soi-même un petit peu.
Ok, merci. Raphaël, Estelle, Alice, sur cette renversion du stigmate, est-ce que vous avez des pistes à nous partager? Raphaël, peut-être?
Moi, je pars du principe que de toute façon, ben, le stigmate, je vais le subir, et en fait, partir du fait que, ben oui, j'ai un handicap. Si ça te dérange, ben, c'est un problème entre toi et toi-même. C'est pas le mien, mais maintenant que je sais que ça te dérange, non seulement je vais rien faire pour arranger ça, par contre, il est tout à fait possible que je fasse quelque chose pour le rendre encore pire, en fait. Par exemple, je sais parce que, et ça m'est arrivé qu'une fois, mais par exemple, une fois, j'étais à la caisse du supermarché, bonbon passé, mais... Les affaires que je venais d'acheter, je règle. Bon, après, je mets les affaires dans mon caddie. ça prend un peu plus de temps que la moyenne. Et la personne juste après moi, qui commence à devenir vocale, si tu sais parler, ben c'est peut-être pas pour sortir la merde, mais bref. Et qui commence à dire, non mais voilà, il, alors en plus il, mais bref, il va encore mettre son satin, je sais plus exactement qu'est-ce que le gus a dit, mais bref. Enfin voilà, et il y a des choses comme ça, voilà, c'est, ben. Et donc, bon, comment j'ai réagi par rapport à ça? Alors, le personnel du magasin, qui est un supermarché, je vais régulièrement. Donc, de toute façon, ben, le personnel me connaît. Et donc, forcément, c'est pas moi qui en ai pris plein la gueule après. C'est, bon, ben, monsieur, calmez-vous un peu, et voilà, enfin, bref. Mais après, j'ai bien pris le temps de mettre les choses dans mon caddie, par contre. C'est-à-dire, à un moment, c'est, je me souviens plus qu'est-ce que c'était la question.
Mais c'était ça, enfin, quelles sont les pistes pour renverser le stigmate?
Ah oui, voilà, oui, ben oui, ben, il y a ça. Ben, à un moment, le stigmate, tu vas le vivre de toute façon. Alors, je ne sais pas si c'est pour le renverser, mais en tout cas, il est là. Je prends le parti, pas depuis très longtemps, depuis 6 mois, peut-être 1 année, mais bref. On va dire 9 mois, enfin, bref. Pas de le renverser, mais bon, ben, c'est là. Je vais rien faire pour changer, en fait, enfin, pour changer, oui, mais pour changer ça, non, en fait.
Okay. Estelle, sur ce...
Oui, c'est une question qui est complexe, hein. De toute façon, si on l'avait, je pense qu'on serait sur le terrain à la mettre en œuvre, mais c'est sûr que sur la question liée au sans-abrisme, il y a un vrai problème, hein, dans l'évolution. Moi, j'avais tendance à dire quand j'étais à la rue que je faisais partie du décor urbain de Bordeaux au même titre que le pot de fleurs. Bon, bah, à la rigueur, ça c'était plutôt agréable parce que maintenant, les gens, quand ils parlent des sans-abri, j'ai un peu l'impression qu'on parle d'un nuisible au même titre que le rat, là, qui se promène et le pigeon. Voire, on parle presque mieux du pigeon que du sans-abri, quoi. Donc, déjà, ça c'est un vrai problème. Pour moi, l'État favorise le racisme anti-sans-abri dans le sens où il fait pas son travail, donc les gens se retrouvent seuls face au sans-abrisme, bien souvent, que ce soit les riverains, les commerçants, toutes les associations et les sans-abri eux-mêmes déjà en premier. Ça aide pas du tout, quoi. Il y a une grosse part d'éducation populaire, il y a tout un tas de trucs. Déjà, ne serait-ce que l'État qui reconnaîtrait c'est le sans-abri comme un citoyen lambda et faisant partie de la société et non un problème, une nuisance. Je pense que ça aiderait déjà un petit peu, mais c'est une question qui est hyper complexe, hein, pour y répondre, ça c'est sûr.
Alice.
Ouais, moi je suis tournée plutôt vers le côté volonté de changement systémique, avec la profonde certitude que je n'y arriverai pas, mais la détermination tout de même. Donc oui, en partant plus du côté recherche, du côté institution un peu installée, le but c'est de pouvoir amener des chiffres, des informations et potentiellement les faire monter, changer les éléments dans la structure, parce que dans les faits, si on veut pouvoir vraiment améliorer les situations, ce sont les structures qui sont au pire à changer, au mieux à reconstruire entièrement. Donc oui, en mettant le capitalisme très loin de nous, volontairement. Et sur le côté réappropriation de la stigmatisation, c'est plus ou moins complexe. On évoquait tout à l'heure le body positivisme, donc qui est de base un mouvement porté par des femmes queer, noires, grosses, américaines, et qui a été complètement blanchisé, qui a été complètement dépolitisé, qui a été complètement validisé, je sais pas comment vous prononcez, mais où il y a un côté, bah, vous avez vu, j'ai deux bourrelets. Non, c'est pas ça la question. C'est comment est-ce qu'on fait pour réapproprier un corps que tout nous pousse à ne quasiment plus posséder tant on nous le rend extérieur à nous, tant on nous dépossède du pouvoir qu'on a dessus et des enjeux qui se vivent à travers lui. Je n'irais pas dire qu'il faut aller jusqu'à se créer une notion de fierté, parce que là on est sur du rapport très individuel et que je me garderais bien de donner des conseils sur à chacun sur comment mieux vivre sa stigmatisation. Là, je crois qu'on fait littéralement tous comme on peut. Mais oui, c'est sûr que un des éléments les plus efficaces, outre le changement systémique, ça va être la recherche du système bis à travers la communauté, à travers l'information circulée autour de la communauté. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on se rend pas compte. Je vais faire une petite parenthèse sur la chirurgie bariatrique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'ensemble des chirurgies qui ont pour processus de faire perdre du poids, qui sont faites sur le système digestif. Donc il en existe plusieurs formes. Le plus connu, c'est le plus courant, c'est l'anneau. Donc on vient poser un anneau qui fait à peu près cette taille-là autour de l'estomac pour en réduire la possibilité de prendre la taille. La plupart du temps, ça marche pas. Du coup, après, les gens font ce qu'on appelle une sleeve, où on enlève entre les deux tiers et les trois quarts de l'estomac pour lui donner une forme de tuyau. Et souvent, ça marche pas. Du coup, les gens font un bypass. Donc en fait, on va juste retirer l'estomac et on va faire passer, on va diviser l'œsophage pour qu'il y ait la moitié qui passe par le pancréas.
J'aime
bien. On enlève des organes qui sont sains pour pouvoir s'assurer que la personne perde du poids absolument. Donc oui, parfois il y a des grosses pertes de poids très rapides, très impressionnantes, très dangereuses, parce que c'est dangereux de perdre beaucoup de poids d'un coup. Et surtout c'est dangereux, genre toutes les statistiques sur le long terme, c'est les reprises de poids déjà, les autres maladies en dehors de ça, parce que comment tu fais pour ingérer tes médicaments quand t'as plus d'estomac? Ça quadruple le risque de divorce, ça quintuple le risque de tentative de suicide, y a rien qui va. Et c'est donc dès qu'on est obèse, dès qu'on fait plus de 35 kilos par mètre cube, donc techniquement moi là avec mon corps, je peux aller voir un médecin dire bonjour, vous pouvez m'enlever la moitié de l'estomac, et le médecin va m'encourager à le faire. Et on en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 120 000 par an en France, si je me souviens bien des chiffres. Et ça, c'est des choses que j'ai eues comme information avant d'arriver à la majorité et de pouvoir être, si on puisse me le conseiller. Et c'est clairement quelque chose que j'ai appris qui m'a dégoûté, que je retravaille dans mes recherches, mais où le fait de le savoir, le fait de déconstruire la notion d'IMC, la notion de la médicalisation du poids, la pathologisation du poids, va créer des gros changements là-dessus qui vont pouvoir permettre de faire un pas de côté. Et c'est sûr que je le vois encore, c'est ma mère qui m'a appelé il y a 2 semaines pour dire oh, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait une sleeve. Oh là là, ça m'a donné envie. Je dis, maman, si tu voulais vraiment le faire, déjà, c'est pas moi que t'aurais appelé. Parce que tu sais que je vais t'engueuler, là, la fille, c'est vrai. Donc, je l'ai engueulée, puis elle a fait, oui, t'as raison. Voilà. Conclusion, ma mère dit que j'ai raison.
Très bien.
Non, mais l'idée, c'est ça, c'est que, en vrai, le but, c'est d'aller rechercher, d'aller trouver l'information, et parce qu'il y a aussi ce truc-là, en psychologie sociale. Les différents préjugés qui existent au sein d'une société, à partir du moment où on est dans cette société, à partir du moment où on a connaissance, même inconsciemment, de ce préjugé, il influe nos comportements. Qu'on soit raciste ou non, validiste ou non, grossophobe ou non, même si techniquement, genre, le fait de dire il y a des personnes qui le sont, des personnes qui le sont pas, c'est questionnable, à partir du moment où le préjugé existe, qu'il nous traverse, il influe nos comportements. La seule manière de réussir à faire en sorte que ce soit le moins le cas, parce qu'évidemment ça influe du côté négatif de la chose. La seule manière pour réussir à changer un peu ça, c'est de prendre connaissance du fait que c'est un préjugé, de notre rapport par rapport à ce préjugé et de l'influence qu'il peut avoir sur nous. Et ça n'enlève pas l'entièreté de l'influence, mais c'est de loin ce qui permet de le plus de le baisser. Donc oui, pour moi, la solution numéro un, c'est le changement systémique et l'information en masse et au plus possible, de plus en plus possible.
Je me permets d'ajouter à ça aussi la représentation, enfin dans la formation aussi, et un rôle que vous avez aussi par votre présence aussi ici aujourd'hui, mais plus de corps non conformes, non dits valides, non dits minces, etc. Plus pour que nos regards puissent changer systémiquement aussi.
Je pense à un truc, juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, sur le sans-abrisme, déjà ce qui pourrait drastiquement aider à changer la stigmatisation, c'est d'individualiser et de personnaliser chaque être humain, en fait, parce que les sans-abris, c'est déjà des êtres humains à part entière, et si on les individualise, qu'on les personnalise, etc., je pense que déjà ça aiderait un petit peu plus, quoi. Alors on est bien d'accord, ça c'est pas simple parce qu'ils sont très nombreux. Hein. ça aide, on se rend compte que ça aide quand même beaucoup, même dans le milieu associatif, on le voit quand on reçoit des stagiaires, etc. Ils ont tous le même discours, mon regard il changera, c'est vrai que ça sera différent, j'aurai moins peur, etc. Souvent ils ont peur, ce truc d'avoir peur, ça revient souvent. Donc en les personnalisant, les individualisant, en les rencontrant, tout ça, déjà, ça aide beaucoup.
Moi, je voulais juste revenir sur un petit point, je pense, une erreur de vocabulaire. Je pense pas qu'on puisse, du coup, parler de racisme anti-sans-abri. Il y a des personnes...
Oui, le mot, il n'est pas bien choisi.
Il n'est pas du tout adapté.
Oui, il n'est pas adapté parce que le racisme, que ça concerne une...
Ben, le racisme, c'est une oppression qui a été inventée par les Blancs pour oppresser les personnes non blanches.
Ouais.
Et du coup, effectivement, autour de cette table, juste blanc, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément les mieux placés pour en parler. Mais du coup, effectivement, le racisme anti-SDF, tout comme le racisme anti-blanc, n'existe pas. Cependant, oui, il y a des personnes à la rue qui vivent du racisme dans leur quotidien, ça voilà, on ne peut pas le nier,
mais c'est du coup c'est une discrimination, oui, voilà, c'est ça, plus que du racisme,
c'est une discrimination.
Le mot est pas bien choisi parce qu'on est dans la discussion, mais oui, c'est important de trouver les bons mots, mais en tout cas oui, il y a vraiment une grosse discrimination, quoi. C'est vraiment tous dans son ensemble, justement, ils le sont pas de par leur couleur de peau, de par leur corps, par leur orientation, etc. C'est vraiment juste par rapport à leur mode de vie. Donc c'est encore différent. Et à l'intérieur, du coup, ils vont être aussi discriminés parce que certains sont noirs, parce que certains sont gros, parce que certains, par les orientations, etc. Donc il va y avoir des multitudes, comme on disait tout à l'heure. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, il y a des discriminations sur plein de choses, quoi. C'est même des trucs improbables, on est même discriminé quand on a un chien, quoi. La discrimination au propriétaire du chien, c'est un truc de fou, quoi.
Est-ce qu'il y a un équivalent de terme, pas de la sans-abrismophobie, mais est-ce qu'il y a un terme...
C'est du classisme, peut-être.
Pour moi, le classisme, c'est
un peu large.
Ouais.
Il n'y a pas de...
C'est plus spécifique que ça.
Non, je crois pas qu'il y ait un terme... Je crois pas qu'il y ait un terme spécifique. Je vais dire de conneries, okay. Mais... En tout cas, ça me vient pas, comme quoi, c'est pas...
Oui.
C'est vraiment, on s'en fout, quoi.
Ouais, part. C'est quelque ouais, chose c'est dont, dont on se fout tellement qu'il y a très peu de mots pour en parler, quoi, limite. Mmh. Et en plus, il y a vraiment, c'est, quand on dit SDF, c'est ouf, mais, déjà, faut savoir qu'il y a différents, il y a le sans-abrisme et le sans-domicile fixe. C'est vraiment deux choses bien distinctes que les gens ont beaucoup de mal à percevoir. Alors, le sans-abri, donc c'est la personne qui vit dehors, qui n'aura pas d'abri, etc. Tandis que le sans domicile fixe, il va avoir un abri, mais n'aura pas de domicile fixe. Donc il va pouvoir, par exemple, il est hébergé chez des amis, il est en foyer, il vit en camion. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est considéré comme sans domicile fixe ouais.
Est-ce que les squats
Je crois que le squat, ça rentre dans le sans-abrisme. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est une bonne question. J'ai moi-même encore du mal à faire la différence entre ce qu'ils considèrent comme sans-abri et sans domicile fixe. Mais vraiment, dans la définition en elle-même, voilà, le sans-abrisme, enfin, le sans-abri ne va pas avoir d'abri, en gros, et le sans-domicile fixe, ne va pas avoir de domicile fixe, donc quand il est hébergé chez le pote et du coup le squat, je me demande s'il rentrerait pas dans la case du sans domicile fixe. Du coup, j'ai un petit doute de par son côté illégal. Du coup, je crois que malheureusement il rentre en sans abrisme. Du coup, si je dis pas de bêtises.
Okay. On avait une dernière question, mais on peut aussi ouvrir au public pour cette dernière question. C'était on constate qu'on a du mal à faire converger l'ensemble des luttes. Donc en fait, c'est un peu deux questions en une. C'est d'une part, bah, quelles sont les causes que vous identifiez au fait qu'on ait du mal à faire cette convergence et quelles peuvent être les réponses pour y remédier. Oui, vas-y Marion.
Moi, la piste principale que j'avais à avancer, c'est que tout le monde est tellement submergé par ses propres difficultés, les propres oppressions qu'on subit, que en fait, on n'a pas l'énergie de faire face au système qui écrase tout le monde, donc on se concentre un peu sur ce qu'on peut, et il y a forcément des choses qui passent à la trappe, parce qu'en fait, on voit très fréquemment dans l'actualité que il y a énormément de choses qui se passent en même temps, l'État attaque sur tous les fronts, et je pense que, par exemple, quand on est handicapé, on le vit au quotidien, etc. Mais en même temps, quand on subit du racisme, on le vit, etc. Mais en fait, du coup, on a du mal à faire des ponts parce qu'on est déjà, je pense, tous un peu sous l'eau avec ce qu'on a. Et je pense aussi qu'il y a des choses qui sont plus impensées que d'autres. Dans les luttes militantes, malheureusement, il y a des luttes qui en effacent d'autres. Je parle pour ce que je connais, donc vis-à-vis du validisme, en fait... Il y a beaucoup de personnes qui vont juste être validistes sans même l'avoir conscientisé parce que juste c'est quelque chose qui, pas qui va de soi, mais qui est tellement ancré en fait qu'il faut déjà faire la démarche consciente de se dire qu'on va effacer cette partie-là de notre perception en fait. Et c'est ce dont parlait Alice sur le fait d'avoir conscience du préjugé dans un premier temps pour ensuite si pas le combattre, au moins essayer de commencer à lutter contre. Et je pense que il y a quelque chose de très performatif encore maintenant quand on dit qu'on est anti-validiste, par exemple. Il y a beaucoup de collectifs qui se revendiquent anti-validistes sans rien faire de concret. Mmh. Ou alors, ils vont dire que le lieu est accessible et on peut pas aller aux toilettes. Et je pense que du coup, il y a une nécessité très flagrante de s'informer, parce qu'en fait toutes les ressources sont là, et les personnes qui militent dans chaque sphère militante, entre guillemets, rendent disponibles ces ressources. Avec Internet, maintenant, on a énormément de zines, de recherches, etc., qui sont disponibles juste en une recherche sur Internet. Mais ça demande, en fait, de chercher les ressources qui sont disponibles, de s'éduquer, d'éduquer les autres. Et c'est quelque chose que... Je peux pas en vouloir à une personne sans abri, par exemple, d'être validiste. où je peux pas en vouloir à une personne grosse de pas s'intéresser à la lesbophobie ou à l'endiphobie, en fait.
Tu.
On peut, non mais on peut véritablement leur en vouloir, on peut leur en vouloir, de pas travailler dessus, mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment juste qu'on est tellement pressurisés chacun une par nos propres discriminations que si en plus on va voir les discriminations des autres, parfois ça fait un peu perdre espoir. En même temps que ça en donne, parce que du coup ça montre qu'il y a des personnes sur le terrain. Et je pense aussi que bah du coup dans la question il y avait aussi comment y remédier. Je pense que ça passe aussi par le fait d'accepter la remise en question et l'inconfort que ça provoque, parce que savoir que chaque personne est par moment raciste, par moment validiste, par moment psychophobe, ben c'est difficile à admettre parfois pour l'ego, parce qu'on se dit non mais moi je suis au-dessus de ça quoi. Non. Ça passe aussi par le fait de se dire que socialement, on est forcément un peu discriminante vis-à-vis d'une catégorie de population, et je pense que ça demande un travail intellectuel, personnel, de, ben, par exemple, de refuser de militer avec des personnes qui sont racistes, même si elles sont super sur les luttes LGBT, ou d'avoir quelqu'un qui va être hyper vegan et pour les luttes en faveur des droits pour les animaux, mais qui en même temps va avoir un rapport à l'alimentation qui va discriminer énormément les personnes grosses. En fait, il y a des ponts qui sont à trouver véritablement pour mener à une convergence, je pense.
Il y a la peur aussi beaucoup. C'est un truc qui revient souvent. Moi, je le vois quand on essaye de mobiliser. Par exemple, ça fait des années, déjà, j'ai essayé avec les gilets jaunes. J'ai essayé aussi avec tout ce qui est un peu syndicat à l'époque, des trucs sur les trucs sur le travail et tout ça. Et on remarque souvent, c'est la peur aussi. Souvent, on me disait, ah oui, mais alors, du coup... je sais pas si ça va bien se passer. Oui, mais regarde, les gilets jaunes, ils ont quand même une mauvaise image. Ah oui, mais il y a la violence, il y a tout ça. Enfin, voilà, on remarque qu'il y a souvent la peur d'aller en manifestation, ou en tout cas de participer à des luttes. Là, je le vois. Par exemple, je leur dis que bah le temps des pétitions et communiqués de presse, bah il est peut-être passé, quoi, et que 2024, j'espère qu'on pourra faire des actions concrètes dès qu'on parle d'actions. Ah oui, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la police. Enfin, je veux pas venir en garde à vue. Enfin, il y a des actions aussi, tu sais, qui te mènent pas forcément en garde à vue et en prison, quoi, en fait. Enfin, il y a tout de suite un rapport avec la violence, la peur. Enfin, je trouve que la peur, elle est quand même vachement présente dès qu'il faut faire des trucs ensemble, quoi. C'est ça va être sur la peur de la violence, mais ça va être aussi sur la peur du regard des autres, sur la peur d'être jugé, etc. Je le vois, c'est souvent, ah oui, mais du coup si je vais avec les gilets jaunes, ouais, je voudrais pas que que je sois jugé pour ça, ou sur plein de trucs on le remarque. C'est ouais, c'est la peur, elle est vachement présente, je trouve.
Alice, tu voulais...
Oui, je voulais rajouter. Je pense qu'il y a une des raisons principales pour laquelle c'est relativement récent que cette question de comment on va faire pour faire converger les luttes s'est installée de façon aussi claire dans les strates de nos différentes luttes, c'est que pendant longtemps la lutte contre le pouvoir, elle était quand même quasi entièrement possédée par la lutte des classes, et que c'était toute pendant tout le 19e siècle, toute l'émergence, enfin 19e, 20e, l'émergence de cette lutte-là avait quand même l'idée que la lutte des classes, la lutte contre le pouvoir financier, réglerait toutes les autres luttes. Qui est toujours un parti pris et une idée qu'on peut retrouver parmi les des militants du côté gauche de la force. c'est pour moi assez récent. Même si on trouve des questions de comment converger les luttes dès les bases de l'intersectionnalité, même avant que le mot soit inventé par Crenshaw dans les années 90, des personnes se sont posées cette question depuis quelques temps, mais le côté un peu général de nous, en ce moment-là, on se la pose, pour moi, est très lié aussi à cette augmentation, grâce aux réseaux sociaux, de la possibilité du discours personnel et la multiplication la visibilité des multitudes de vécus. Donc c'est à la fois effectivement très cohérent pour toutes les raisons que vous avez amenées, genre oui, on a déjà du mal à se déconstruire sur les choses qu'on vit soi, donc réussir à comprendre un peu, à essayer de comprendre, à savoir que ça existe, à prendre conscience, il y a énormément de travail à faire.
On n'est pas seul aussi, parce que certains pensaient être seuls aussi dans leur problématique.
Ce sont des choses qui sont pour moi relativement... C'est pas vraiment récent. D'un point de vue de l'histoire, j'estime ça comme relativement récent, mais connasse de elle, moi je réfléchis vachement en arrière. C'est pour moi le truc numéro un. Réussir à réfléchir l'action de façon effectivement convergente, c'est-à-dire qui vient de différents éléments. Comment réussir à faire...
Ouais.
Non pas tant, je pense, toutes... dans le même sens, dans le sens où il devrait y avoir une seule réalité finale vers laquelle on devrait tous tendre, mais comment faire en sorte de créer de tendre vers la multitude que demande la multitude des vécus de chacun finalement.
C'est beau ce que tu dis.
Raphaël, peut-être tu veux ajouter quelque chose
là-dessus. C'était sur comment on pense, c'était quoi?
Comment penser la convergence des luttes,
voilà,
quels sont les freins et les solutions possibles.
Mais moi, je pense que comment penser la convergence, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Ben oui, moi, il y a de la convergence par la transphobie, le validisme, la lesbophobie, le sexisme que je vis. À partir du moment où je vois que il y a plusieurs oppressions que je vis, j'ai bien remarqué que les oppressions, c'est pas fait. Là, je vis de la transphobie. Là, je vis du sexisme. C'est, tiens, la transphobie, le sexisme s'associe pour me faire encore plus chier, hein, globalement. Et voilà, et en fait, je pense très clairement que c'est les militants qui vont vivre plusieurs oppressions qui peuvent dire, voilà, je vis ces oppressions-là, mais il y en a d'autres aussi, la grosse vie, etc., que je ne vis pas moi-même. Et en même temps, je me dis, voilà, la grosse phobie, je vis pas ça, mais je vis la transphobie. Ah, tiens, ma petite amie est grosse et trans, par exemple. Bon, là, j'ai vraiment quelque chose de clair. Je vois vraiment ce qu'elle va subir très clairement, en fait. C'est sûr. Et voilà, je me dis, oui, qu'il y a quelque chose, quand je milite contre la transphobie, mais il faut que je milite aussi contre la grossophobie, et tiens aussi contre le racisme, parce que j'ai des amis qui sont plutôt très proches qui subissent du racisme. Et quand elles vont me raconter, j'ai vécu ceci, cela, je suis pas là pour nier les choses que d'autres vont vivre, en fait. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un handicap qui est lourd, mais je ne suis pas en fauteuil. Et je me souviens que c'était un peu avant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des actions anti-validistes auxquelles je participais. La personne qui avait orchestré tout ça était une personne qui a un handicap, qui est en fauteuil roulant. Et quand elle m'a vu arriver à pied, la première, avant même de me dire bonjour, j'aime pas cette personne de toute façon, la première réaction qu'elle a eue, c'était, c'est même pas un fauteuil. Genre, les personnes ont dit en fauteuil, il appelait ça Enfin, il appelait des fauteuils. Ben, non, des personnes qui utilisent un fauteuil, enfin, voilà, mais... Enfin, bref. La convergence des résultats, oui, c'est vrai. Je parle de ça au début. Bon, donc, ben voilà. Ce Gus, en l'occurrence, vivait le validisme et rien d'autre, hein, de toute évidence. Et voilà, mais, bref.
Oui, on en retombe sur la nécessité, du coup, d'avoir des représentations autour de soi et dans nos proches, dans nos entourages et de l'information. Il reste quelques minutes pour ouvrir au public. Tu veux rajouter quelque chose?
Moi, je voulais juste dire que c'est aussi important de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est dans des milieux militants, et même dans le milieu militant de la cause qu'on défend, qu'on peut pas, par exemple, c'est pas parce qu'on est dans une asso anti-validiste qu'on n'est pas validiste. Et en fait, à partir du moment où on commence à prendre conscience de ça, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire, même en nous-mêmes, en fait, la déconstruction n'est jamais finie, finalement.
Je me sens surtout très con parce qu'en fait j'essaye de comprendre qu'est-ce que vous appelez le validisme. Désolée si je passe pour une andouille, mais
c'est la discrimination des personnes face aux personnes handicapées.
Ok, ouais, j'avais un petit, je me doutais que ça c'était à peu près ça, mais je voulais quand même être sûre de pas dire de conneries.
Okay. Je l'ai clarifié au début, mais t'étais pas encore. Ouais, désolée.
Ok, bon bah nickel, ça va. Et... du coup je me sens pas trop bête.
Tout va bien.
Oui, par rapport à la grossophobie, je vais repenser un truc. Quand on parle de la croix de l'IMC, tu avais bien raison de dénoncer l'IMC parce que, par exemple, Teddy Riner, si on prend sa taille et son poids, l'IMC, il est obèse, il est gros, quoi.
Techniquement, la plupart des bodybuilders sont catégorisés comme obèses.
Exactement, voilà. C'est un moment, on va dire à Teddy Riner qu'il est obèse. Je le ferai pas moi personnellement, mais pas. Et j'imagine que David Douillet, c'était la même chose.
Non, mais David Douillet, par contre, c'est un peu différent de Riner quand même, il était plus costaud. Hein.
Oui, il y a ça aussi.
Douillet, il est douillet.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisqu'on va
de manquer de spécialité.
Des interventions, des témoignages. Oui, vas-y.
Pour parler un peu de du coup cette convergence là, les petits trucs que j'utilise moi en tout cas pour dans mon militantisme, c'est il y a la prise de conscience. Et par la prise de conscience, il y a du coup cette envie de s'informer qui vient avec l'information qui arrive. Bah en fait je ne peux pas faire autre chose que constater que je vais me positionner, enfin que je suis placé dans telle ou telle situation en fonction de mes des discriminations que je subis, des discriminations que je fais subir malgré moi. Et qu'en fait voilà, je suis placé, c'est pas moi qui ai choisi ma place, mais j'y suis. Et puis après bon pour le coup vu que moi je me positionnais comme une personne militante, je vais vouloir actionner la déconstruction, actionner ce truc qui est enfin que parfois certaines personnes peuvent qualifier d'effort. C'est pas un effort, c'est pas réellement un effort, c'est pas facile parce qu'on fait, on se retrouve face à soi-même, à des choses que on fait vivre à d'autres, à des choses qu'on sait vivre à soi-même, à toute une multiplicité et aussi du coup ça, enfin il y a ensuite faire ou arrêter de faire des choses, arrêter, enfin quand on comprend telle dynamique et tout, enfin c'est important de l'intégrer à nos comportements aussi et d'être clair et d'être clair là-dessus, de placer nos actions au même point que notre réflexion militante et être cohérent en fait. Voilà.
C'est
Ah mais il est jamais terminé. Il est jamais terminé. Plus, oui. C'est pas le but, mais c'est pas le but de le terminer. Le but c'est d'y aller quoi.
T'as un exemple de comportement que.
Là tout de suite. Là tout de suite non ou enfin si. Bon. C'est vraiment le truc qui est arrivé le plus récemment que bon, ouais, du coup je suis bref il y a pas longtemps FACAP a fait une soirée du coup sur autour du Black History Month et en fait j'ai remarqué que qu'il y avait énormément de personnes blanches qui prenaient l'espace devant la scène et ben par exemple quelque chose à faire ça aurait été du coup d'avoir conscience que là on est une personne blanche dans une soirée qui n'est pas dédiée bah à toi en fait et d'avoir conscience de ton corps dans l'espace par rapport à l'autre, d'avoir conscience que là tu rentres pas n'importe où que tu es du côté oppresseur de la force et d'avoir conscience de ça et du coup de reculer, de laisser de la place dans la salle sur le dance floor parce que en fait, ce n'est pas toi qui est au centre de l'attention aujourd'hui. Et en fait, toi, tu, en tant que personne blanche, tu as tellement confiance en toi, tu as tellement l'habitude d'avoir accès. Enfin, on a tellement l'habitude d'avoir accès à tout, à n'importe quel espace, qu'on ne va pas se poser la question de est-ce que là, dans cet espace où moi, je ne suis, enfin, où il n'y a pas la volonté de ni de me représenter, ni de me mettre en avant. Bien au contraire, je me sens quand même à l'aise d'aller m'asseoir devant. Donc, par exemple, ne plus faire ça, ne plus faire ça, avoir conscience de son corps dans l'espace. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je suis bien placé ici? Ou est-ce que je peux me placer pour que ce soit pertinent? C'est tous ces genres de questions-là.
Ce qui revient, tu disais tout à l'heure avec la notion de savoir situer. Oui. Avoir à la fois conscience effectivement de ce qu'on subit, mais de ce qu'on fait oppresser, et avoir conscience de ça dans l'aspect très matériel de la chose.
Exactement.
C'est-à-dire à la fois dans ses pensées, mais sur le terrain, concrètement, corporalité à corporalité.
C'est ça.
Je suis désolée, mais là, il est 16h, donc on va devoir rendre la salle. Merci beaucoup pour votre présence, et on remercie le Théâtre des Avant-Postes de nous avoir accueillis pour cette table ronde. C'était très instructif. Et puis le podcast sera publié. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des réactions. Voilà, je le publierai dans mon émission sur Au bord des corps. Merci beaucoup.
Avant de conclure, je précise simplement que au sujet de la hausse des violences qu'il y aurait eu ces dernières années dans l'espace public, il n'y a pas de données statistiques ou d'études sociologiques qui viennent étayer cette affirmation, c'est quelque chose de subjectif. Je vous renvoie là-dessus les excellents podcasts de Kif Taras et Les couilles sur la table, où intervient Marwan Mohamed, sociologue.
Votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
No sé qué.
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corsé.
Au bord des corps.